Radio Campus et les radios partenaires présentent la Nuit européenne des chercheurs. Une invitation à partager une soirée avec des chercheurs et des chercheuses dans des centaines de villes d'Europe, dont 16 en France.
La Nuit européenne des chercheurs, c'est aussi à Saint-Étienne, à la fabuleuse cantine où nous sommes pour enregistrer ces parcours croisés. Deuxième parcours sur le thème recherche et enjeux environnementaux avec nos deux invités, Mélissa Escobar, bienvenue.
Merci.
Vous êtes doctorante en sciences et génie de l'environnement à l'école des mines de Saint-Étienne, c'est bien ça?
Oui, c'est ça. Je m'intéresse notamment pour le design for sustainability.
Voilà, vous faites peut-être donc des recherches en soutenabilité forte. On va évidemment en apprendre bien plus. Et oui. Du coup, avec vous, en face de vous, à vos côtés, Clémence Petit, vous êtes enseignante chercheuse à l'école des mines et membre du laboratoire Georges Friedel. Bienvenue.
Merci.
Et vos domaines, notamment sciences des matériaux, on va évidemment en parler aussi, puis voir comment vos disciplines se croisent. On va essayer de tirer les fils comme ça. Mélissa, Alors peut-être on va commencer par vous. C'est le hasard du tirage au sort, presque. du coup, on parle de soutenabilité forte, thème qu'on emploie ou qu'on va employer de plus en plus. Finalement, c'est quoi la soutenabilité forte?
Voilà. En fait, c'est une façon nouvelle de s'organiser, d'organiser la société. Elle est engendrée par un nouveau système économique dans lequel on arrête de voir l'environnement comme une externalité. Et on dépasse aussi les sphères économiques, environnementales et sociétales. Et on voit en fait à regarder plutôt notre interaction avec le monde de vivant et comment on coévolue avec.
Alors comment on évolue, comment on change aussi nos habitudes. Clémence Petit, justement, est-ce qu'on change ses habitudes dans la recherche aujourd'hui en tenant compte des enjeux environnementaux?
Alors oui, de plus en plus évidemment. Donc moi je travaille, comme vous l'avez dit, au laboratoire Georges Friedel dans le domaine de la science des matériaux. Et plus particulièrement, je fais partie d'une équipe qui a comme spécialité l'étude des matériaux céramiques. Et on travaille beaucoup sur les procédés d'élaboration des matériaux céramiques. Et c'est vrai que depuis maintenant quelques années, la question de l'impact environnemental des procédés de fabrication des matériaux, et particulièrement des céramiques, se pose de plus en plus. Alors on y reviendra peut-être plus en détail, mais c'est vrai que notamment la question de la consommation énergétique, à la fois quand on met en forme les pièces et surtout quand on les cuit, puisque dans les matériaux céramiques, il y a une étape de cuisson, où on va aller à très haute température pour permettre à la pièce d'avoir ses propriétés finales. Et c'est vrai qu'il y a ces questions vraiment d'impact environnemental, de consommation énergétique surtout, c'est assez d'actualité évidemment, qui se posent de plus en plus pour nous dans les laboratoires et dans notre spécialité concernant le monde des céramistes, on va dire.
Alors quand on parle de céramique dans votre domaine, on est sur finalement des matériaux travaillés qui vont avoir des implications que forcément on ne s'imagine pas forcément dans le grand public. On n'est pas là dans la céramique qu'on va trouver dans sa maison.
Alors non, effectivement, nous on travaille dans les céramiques qu'on a à la maison, que ce soit la vaisselle, les poteries, etc. Nous on va parler plutôt de céramique traditionnelle. C'est tout ce qui est matériaux faits à base d'argile. Et les céramiques, c'est pas que ça, ce sont aussi ce qu'on appelle les céramiques techniques, ce sont des matériaux à haute valeur ajoutée qu'on va retrouver dans différentes applications industrielles. Je dirais pour simplifier que les matériaux céramiques sont un peu les matériaux de l'extrême, les matériaux qu'on va utiliser lorsqu'on a besoin d'avoir des matériaux qui résistent aux hautes températures, à des environnements agressifs, à de l'abrasion, etc., etc. Donc on va retrouver les céramiques dans des applications médicales, dans l'aéronautique, dans les voitures, dans l'électronique également.
Alors justement, on parle d'électronique, de voitures, d'objets. Justement, Mélissa, finalement, la soutenabilité forte, c'est aussi comment se passer de ces objets ou les concevoir différemment, plus intelligemment peut-être.
Oui, alors il s'agit ici aussi de changer nos modalités, donc nos modes de consommation mais aussi de production, et qui vont nous permettre du coup de non seulement limiter l'impact, mais aussi arrêter de polluer et dans une nouvelle, on va dire, en regardant la nature autrement. Donc on doit changer les statuts qu'on donne aux vivants. C'est pour ça qu'on va changer notre façon d'agir dans le monde. C'est quelque chose un peu de théorique, mais que c'est un lien aussi avec notre façon de production et consommation.
Alors, vous ne parlez pas, vous, d'objets intelligents, mais vous souhaitez finalement des usagers intelligents.
Oui, voilà. En fait, notre objectif est de ne pas faire des villes intelligentes, mais des citoyens intelligentes, donc des citizens, on dit. Et donc, du coup, c'est dans le sens où c'est un peu dans la société de la connaissance, on doit connaître les impacts des objets, on doit, et donc dans l'usager, il demande de plus en plus aussi des transparences dans la production, donc on doit leur permettre d'avoir une utilisation intelligente de l'objet.
Clémence Petit, quand on travaille sur les céramiques comme vous le faites, est-ce que justement cette notion de finalement produire peut-être moins mais mieux et plus durable, c'est également des questions qui se posent, notamment dans le domaine de l'aéronautique, dans le médical par exemple?
Oui, tout à fait. Alors la question de produire mieux, effectivement, elle se pose aussi bien sur les procédés de fabrication. Comme je disais, on travaille beaucoup sur les procédés, on va dire, innovants de fabrication de céramique. Alors on peut citer notamment les mises en forme de pièces par impression 3D. On peut citer aussi des procédés de cuisson innovants comme la cuisson par micro-ondes, sur lesquels on travaille beaucoup au laboratoire Georges Friedel. Donc là, ben, se pose la question de l'impact énergétique, de la consommation énergétique et de la consommation de matières premières aussi. L'idée, évidemment, de diminuer la consommation énergétique, diminuer la consommation de matières premières quand on va fabriquer des pièces. Et puis, il y a la question, évidemment, de la durabilité des pièces. Alors nous, dans le domaine des céramiques, on travaille avec des matériaux qui sont intrinsèquement fragiles. Tout le monde s'est rendu compte chez soi qu'une assiette, quand on la fait tomber, elle casse, elle ne se déforme pas, elle casse. Hein. Donc on a des matériaux qui sont intrinsèquement fragiles, mais l'un des enjeux aussi, c'est justement de travailler à travailler sur les procédés d'élaboration, mais sur le choix des matériaux eux-mêmes pour les rendre un peu moins fragile et donc pour avoir des pièces qui vont durer plus longtemps en service.
Mélissa, justement, la durabilité des objets, c'est évidemment une question qui vous anime. Est-ce que finalement, il faut évidemment penser les objets plus durables, mais je crois qu'il faut changer notre rapport aux objets. On est quand même dans une société du tout jetable. Alors comment on change les paradigmes un peu?
Oui, alors je pense qu'on a été un peu éduqués dans cette façon de « si je consomme, j'existe ». Donc dans le sens où quand je sens que j'ai mérité quelque chose, donc du coup, peut-être je vais mériter la technologie, la haute technologie. Donc nous, on s'intéresse plutôt à la sobriété. Et par cela, donc, on s'intéresse à la low-tech. Et donc oui, c'est une façon de changer notre relation, d'agir donc, dans le monde.
Donc il ne faut plus s'attacher aux objets, alors, parce qu'il y a aussi l'attachement à l'objet, sans parler d'objets jetables.
L'attachement est important. Et justement, nos anciens, en fait, il y avait l'héritage d'objets. Donc il faisait attention et il le gardait pendant longtemps. Et des fois, un objet était transmis de génération en génération. Donc on n'est pas contre ça. On a par exemple l'exemple des Lego, qu'aujourd'hui on sait qu'ils sont très résistants. C'est un plastique très résistant. Du coup, on peut le donner à nos enfants. Et donc la durabilité, c'est quelque chose qui nous intéresse, mais c'est aussi, en fait, de la part de l'usager, ce qui nous intéresse, c'est de refuser ce dont on n'a pas besoin et savoir reconnaître une envie et un besoin.
Alors évidemment, est-ce qu'on s'attache aux objets que vous fabriquez, Clémence Petit, en sachant que c'est dans des domaines très techniques, très spécialisés, mais est-ce que du coup, il y a quand même ces notions aussi de durabilité, vous l'avez évoqué d'ailleurs.
Ouais, alors oui, ça dépend. Tout à l'heure, j'évoquais donc un petit peu la séparation entre qu'on fait, nous, traditionnellement, dans le monde des céramistes, entre céramique traditionnelle et céramique technique. Alors, je ne sais pas si on s'attache à une prothèse de hanche ou à... ou une bougie d'allumage dans une voiture. Mais par contre, pour ce qui est tout ce qui est matériaux céramiques qu'on trouve chez nous, tout ce qui va être objet de décoration, vaisselle, poterie, etc. Là, oui, il y a la notion d'attachement et il y a la notion de transmission aussi, parce qu'on a des matériaux quand même qui sont inertes chimiquement, donc qui vont durer sur longtemps. Les archéologues le savent bien, évidemment, concernant les céramiques, les argiles. Donc oui, il y a cette notion de transmission, effectivement, de pièces qu'on va pouvoir se transmettre de génération en génération, de services en porcelaine, par exemple, qu'on va pouvoir se transmettre de génération en génération, oui.
Alors Mélissa parlait de low-tech, est-ce qu'on peut imaginer finalement de faire de la recherche un peu low-tech entre guillemets, tout en étant sur des procédés aussi techniques que cette céramique qu'on va retrouver notamment dans des pièces pour l'aéronautique?
Alors c'est vrai que c'est une vraie question qu'on se pose aussi au laboratoire, hein, que d'ailleurs les collègues qui travaillent sur d'autres classes de matériaux se posent aussi évidemment. C'est vrai qu'on est, quand on fabrique une céramique, on ne peut pas se passer de cette étape de cuisson, on ne peut pas se passer du fait d'aller à très haute température, à plus de 1000 degrés pour consolider la pièce. Et donc la question effectivement se pose de soit d'aller vers des procédés qui sont moins énergivores, mais encore faut-il pouvoir aussi démontrer qu'on est vraiment moins énergivore, par exemple quand on va cuire une pièce par des micro-ondes plutôt que dans un four classique. Et puis se pose aussi la question éventuellement pour certaines applications bien précises éventuellement de changer de matériau, voir est-ce qu'un matériau peut pas être remplacé par un autre, un matériau par exemple qui serait cuit à une température un peu moins élevée qu'un autre. Voilà, il y a la question aussi du choix des matériaux qui se pose, oui.
Alors le choix des matériaux est peut-être aussi choix de garder certaines techniques qui sont peut-être pas les plus compatibles environnementales, les plus compatibles, on va dire, de façon soutenable, forte, Mélissa, parce que finalement, il y a le low-tech, il y a le high-tech, et est-ce que finalement, il n'y a pas un chemin entre les deux? C'est-à-dire que dans certains domaines, on peut peut-être se dire, bon, on essaie de faire attention, mais de privilégier malgré tout ce qui fonctionne.
Oui, alors... Avant, il y avait un problème, on cherchait la ressource et on trouvait la solution. Aujourd'hui, du coup, il faut passer, pas par la ressource, il faut passer par faire des interrelations des acteurs. Donc essayer aussi de trouver des moyens de production cyclique dans lesquels on peut mettre en interrelation les acteurs et faire du coup des économies circulaires. C'est une première pas vers la soutenabilité forte. Et on a besoin de ça, mais il faut y aller au-delà.
Donc finalement, c'est aussi une histoire de choix. C'est-à-dire que peut-être que dans le médical ou l'aéronautique, on a besoin de procédés peut-être gourmands en termes de ressources. Et par contre, pour d'autres objets, d'autres services de la vie quotidienne, on peut peut-être faire autrement ou s'en passer.
Voilà, c'est ça. C'est, en fait, choisir, on est tous d'accord que dans le domaine de la santé, on ne va pas faire des efforts au niveau de trouver les meilleurs moyens de coproduire et de guérir les gens. Par contre, peut-être dans la mobilité, il va falloir ralentir et trouver les moyens mieux adaptés pour se déplacer.
Alors nous arrivons presque au terme de ce parcours croisé. Est-ce que Clémence, vous avez une question pour Mélissa ou inversement, Mélissa, une question pour Clémence?
Eh ben justement, c'est une question que tu as déjà posée, c'était sur la low-tech. Est-ce que vous envisagez du coup, est-ce que vous prenez en compte la soutenabilité forte dans la façon de changement radical un peu dans votre recherche?
Alors, comme je le disais, on va de plus en plus vers ces procédés de fabrication moins énergivores. Mais par contre, c'est vrai que je pense qu'on a encore à progresser, notamment sur, comme je le disais, la quantification de l'économie d'énergie ou de l'économie de matière qu'on fait réellement lorsqu'on produit une pièce par tel ou tel procédé. Et là, je pense qu'il y a des ponts à faire avec les différentes disciplines, et par exemple la tienne, pour justement vraiment travailler à... établir, faire notamment des analyses du cycle de vie d'un produit et vraiment être sûr de là où on va et de ne pas faire du greenwashing comme c'est souvent le cas dans le monde industriel notamment.
Et Clémence, est-ce que vous avez une question ou une remarque pour Mélissa?
Non, pas particulièrement, mais en tout cas, voilà, je pense qu'il y a effectivement, comme je le disais, des ponts entre nos disciplines et des actions à mener aussi en commun. Voilà.
Merci Mélissa et Clémence d'être venues à ce micro pour ce parcours croisé sur recherche et enjeux environnementaux. Merci à vous.
Merci pour l'invitation.
Merci.
la Nuit européenne des chercheurs